soigneux. Toute cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Catherine Millet. Ce soir, la vie sexuelle de Catherine M.
Bonsoir Catherine Millet.
Bonsoir.
Voilà, nous sommes chez vous pour le deuxième soir à Paris, dans votre maison. Et nous avons parlé déjà hier de toutes sortes de choses. Vous nous avez parlé. Et j'aimerais qu'on revienne ce soir un peu plus particulièrement sur la vie sexuelle de Catherine M., qui est donc votre premier livre de littérature. Vous aviez déjà écrit plusieurs essais sur l'art. Ce livre-là, d'abord, ce serait intéressant, vous en avez un tout petit peu parlé hier, mais qu'on revienne sur les prémices du livre. Comment naît un livre comme celui-ci?
C'est un livre tellement, tellement improbable. En fait, pour commencer par le tout début, c'est vrai que j'étais un peu travaillée par l'idée de faire un livre où j'aurais raconté comme ça un petit peu ce qui avait été pendant, je sais pas, quand même quelques décennies, ma vie sexuelle. Voilà. Et pourquoi j'avais envie de faire ça? Parce que je trouvais que tous les discours ambiants sur la sexualité étaient faux, en fait. Je trouvais que quand les gens racontent, enfin par écrit ou simplement oralement, comme ça, entre amis, leur vie sexuelle, je trouve qu'ils mentent toujours. Bon. Ou ils en rajoutent, ou ils en taisent. Bon. Et ça m'énervait un petit peu, moi qui appartiens à une génération pour laquelle, justement, la libération sexuelle avait tellement compté, etc.
Bon. Je rappelle que vous êtes née en 1948, donc oui. Effectivement, que vous avez
J'avais pile
connu
20 ans
toutes ces années
en 68. Et vraiment, c'était l'époque heureuse où, pour résumer les choses, je dirais, tout le monde baisait avec tout le monde. C'était vraiment, ça a été une époque très, très joyeuse. Et même peut-être que c'est ça aussi qui me faisait un peu réfléchir parce que quand même, je me rendais bien compte que, en fait, cette libération sexuelle n'avait pas été sans difficulté, sans heurts, sans se heurter aussi finalement à un certain nombre de limites, voilà, et que des choses auxquelles on avait, j'ai pas envie de dire cru, mais plus ou moins cru, comme ça, comme on vit ensemble, mais chacun fait ce qu'il veut de son côté, tout ça. Bon, on avait essayé, puis on s'était vu que c'était quand même pas aussi facile que ce qu'on pensait. Bon, alors il y avait pas mal de bémols à apporter à cette liberté sexuelle. Et donc voilà, mon idée, c'était de raconter à partir de ma propre expérience la réalité des choses, c'est-à-dire c'était bien, mais en même temps il y avait des choses qui étaient pas si bien non plus, enfin il y avait des limites à cette liberté ou comment ça se passait, enfin j'avais vraiment envie de faire sans exagérer dans un sens ni dans l'autre un récit fidèle, voilà, un témoignage. En fait, oui, c'est ça. J'ai souvent utilisé ce mot de témoignage. Je sentais bien arriver à un certain âge et dans une certaine période de cette civilisation que l'expérience que j'avais traversée, que nous avions, que ma génération avait traversée, était en train de tourner court et qu'il fallait en garder aussi une trace. C'était aussi un de mes objectifs. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de au tout début.
Je vous interromps une seconde, Catherine Millet, pour vous dire quelque chose, enfin apporter une précision. C'est que vous dites que c'était la vie de votre génération, mais vous, au sein de cette génération-là, vous aviez une vie assez particulière qui n'était pas celle de tout le monde. Et qu'est-ce que raconte ce livre?
En fait, c'était quand même la vie de
extrêmement
beaucoup plus
libre.
De beaucoup plus de gens que peut-être on l'imagine aujourd'hui. Moi, c'est aussi, par exemple, les les réactions que j'ai recueillies à la sortie du livre, parce que des gens de mon âge venaient me trouver en me disant « Ah bah, vous savez, moi aussi, je peux vous raconter que... » Et puis je regrette que ce soit plus comme ça. Enfin bon, voilà, j'avais quand même beaucoup de témoignages. Ah bon, j'admets que tout le monde n'allait pas dans les clubs échangistes, que tout le monde n'allait pas au hasard au bois pour des rencontres sexuelles, bon, des tas de choses comme ça. Mais il y avait une liberté générale qui était sûrement beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, et même dans la tolérance, en fait. Alors, c'est bizarre, d'ailleurs, parce qu'il y avait sans doute, par exemple, les lois ne s'étaient pas encore adaptées comme elles se sont adaptées aujourd'hui. Les homosexuels, par exemple, ils en étaient au début de leurs revendications. Bon, donc, on n'imaginait même pas, à l'époque, et ça leur venait même pas à l'idée à eux, je crois, de demander à pouvoir se marier. Donc, curieusement, les lois se sont actualisées dans un moment où je dirais l'ouverture d'esprit, la disponibilité des gens est beaucoup moindre, en fait. Enfin, si on veut résumer les choses, par exemple, puisque je parlais des homosexuels, ce qui nous intéressait à l'époque chez les homosexuels, c'était leur très grand nomadisme sexuel. Donc, il n'était pas question encore de se marier. Vous voyez, bon, ça fait une très grosse différence. Voilà. Bon, je referme cette parenthèse. Donc, quand même, je pense que c'est un témoignage générationnel pour répondre à votre question. Et pour revenir alors à la première des questions, ce qui a été le déclencheur, parce que c'est vrai que de temps en temps, cette idée de faire un livre là-dessus me traversait l'esprit. Puis d'abord, j'étais très occupée par le journal, par des expositions qu'on me confiait, dont on confiait l'organisation. Bon, voilà, j'étais pas prête à me mettre au travail. Ça restait une idée vague comme ça. Bon, jusqu'à ce que Denis Roche, qui avait créé et qui dirigeait la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil, qui était l'éditeur de Jacques Henric, qui était notre voisin, là où nous habitons.
Jacques Henric étant votre mari.
Jacques Henric étant mon mari, étant devenu mon mari. Bon, je ne sais pas s'il était déjà mon mari à l'époque. Denis Roche, un jour, on prenait le café comme ça ensemble, et Denis, depuis toujours, s'intéressait aux écrits de femmes sur la sexualité. C'est lui qui avait publié, par exemple, Le Boucher d'Alina Reyes. Et vraiment, très souvent, dans les conversations qu'on avait sur la littérature contemporaine, il en revenait beaucoup à des auteurs femmes comme ça qui parlaient d'elles, de leurs désirs, des hommes, etc. Bon, et il nous a posé la question de savoir si, on connaîtrait pas dans notre entourage une femme qui serait disposée à parler de sa sexualité. Et dans mon souvenir, c'est Jacques qui a répondu pour moi en disant, mais elle m'en a déjà parlé, elle pourrait faire quelque chose. Ah, a dit Denis, vraiment? j'ai dit, ouais, c'est vrai, de temps en temps, je pense à faire un truc comme ça. Ah, je te fais un contrat. Il m'a fait le contrat dans les 10 jours. Et je me suis retrouvée avec ce contrat et devant l'ordinateur en me disant, mais par quel bout je vais prendre ça? Et puis voilà, et j'étais pas très sûre au début, d'ailleurs, parce que je craignais, en fait, que Denis n'attende un ouvrage érotique, et j'étais consciente de ne pas écrire un ouvrage de ce type. Même si après, pour certains lecteurs l'ont pris comme ça. Pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi qui m'ont fait le reproche
que ça ne l'était pas. Ça n'est pas un livre érotique. Ce n'est pas un livre de voyeurisme, et ça ne l'est pas entre autres parce que à cause de la manière dont c'est construit, on en a parlé hier, mais aussi dans la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire, c'est écrit sous la forme d'un constat. Ce serait presque clinique si ça n'était pas porté par votre écriture à vous, qui est une écriture magnifique et qui est tout sauf froide. Mais détaché des affects, en fait.
Oui.
C'est complètement détaché des affects. Ça vous est venu immédiatement, Catherine Millet, ou c'est un choix que vous avez fait au départ, réfléchi?
Oh non, c'est... Non, je crois que ça m'appartient d'emblée. J'ai le souvenir, il y a très très longtemps, j'avais écrit une préface pour un artiste photographe dont j'aimais énormément le travail, comme ça. Et puis, comme je le fais de temps en temps, je l'avais donné à lire à Jacques, justement, avant de l'envoyer à l'artiste, pour d'abord pour qu'il me corrige mes fautes d'orthographe, parce que des fois j'en laisse passer pas mal, et puis aussi parce que c'est rassurant d'avoir l'opinion comme ça. En plus, je suis presque sûre qu'il va me dire que c'est très bien, donc ça me donne du cœur au ventre. Bon, et je me souviens de la remarque de Jacques ce jour-là en me rendant le texte, en me disant: mais finalement, on ne sait pas, ayant lu ce texte, si tu aimes le travail de cet artiste ou pas. Et je m'en souviens très très précisément, parce que vraiment j'aimais beaucoup ce travail et que j'aimais aussi beaucoup la personne en plus. Donc je me suis dit, bah oui, il a raison. Pour moi, mon travail consiste à faire en sorte que les autres s'y intéressent, donc éventuellement aiment ce travail. Mais il est certain que c'est pas parce que moi, Catherine Millet, je leur aurais dit j'aime ça, que ça va les convaincre pour autant de partager cet intérêt. Bon, donc c'est pas, j'ai pas à faire ça, quoi. Voilà. Et donc j'ai toujours écrit. Je crois que je continue d'écrire. Peut-être que je me suis un peu assouplie avec le temps, avec l'âge, mais je continue à écrire de cette façon détachée, y compris sur des œuvres qui me passionnent, quoi. Bon, donc encore plus, j'ai envie de dire sur Catherine M, qui finalement peut-être me passionne pas autant. Donc voilà, oui. Et puis il y a ça aussi, alors ça, je crois que ça revient tout le temps chez moi, parce que j'en parle, je l'expose, etc. Il y a cette faculté qu'on a de se dédoubler, et de, pas simplement au moment de l'écriture, parce que cette personne dont on parle, qui est nous-mêmes, devient quelqu'un d'autre, mais je crois même dans la vie, en fait. Moi, souvent, comme ça, j'ai interrogé des gens autour de moi, en leur disant: mais est-ce que vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire de vivre et de me regarder vivre en même temps? Alors, j'ai l'impression que c'est pas partagé par tout le monde. Il y a des gens qui sont dans l'événement, dans l'action pleinement, quoi, et qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont en train de vivre et d'accomplir. Or, moi, c'est exactement le contraire. Même, c'est des fois, je pense que c'est un handicap. Mais moi, j'ai toujours cette conscience là à l'arrière de la tête, qui me regarde dans le moment même où je suis en train d'agir, quoi, en fait.
Vous êtes perpétuellement, presque, Catherine Millet, dans une forme de narration tout le temps de vous-même, de vous regarder.
Oui, complètement. Mmh. Même, je peux vous dire même que... je vais vous donner un secret que je ne vous ai pas avoué hier, par exemple. C'est que, en fait, parfois... Si j'ai à faire l'effort de réfléchir sur une situation que je suis en train de vivre, un problème que j'ai à résoudre, par exemple, je me mets dans la situation de l'écrire dans ma tête, si je puis dire les choses comme ça. C'est-à-dire que je l'envisage et je me le raconte, bon, comme si j'étais en fait devant l'ordinateur en train de l'écrire, et que ça m'aide dans la compréhension du fait et de la question à apporter si un problème se pose, ouais.
Il faut qu'il y ait cette médiation-là. Et alors, ça, il y a un autre aspect de la vie sexuelle qui est attenant à ce que vous êtes en train de dire, enfin, il me semble, c'est que quand on est le lecteur, on a le sentiment que, à beaucoup de moments, ce corps, ça n'est pas tout à fait vous, en fait. Non. Que vous êtes dissocié de votre corps.
Oui.
Ce corps dont vous parlez dans des termes extrêmement précis. J'allais dire cru, mais c'est pas cru, c'est précis. C'est vraiment, voilà, avec une très très grande précision. Et c'est comme si ça n'était pas vous.
Oui, alors, j'aurais bien du mal à dire d'où ça vient, l'origine de ça, ou quel est le moment où ça a commencé à être comme ça pour moi. Je pense que c'est sûrement antérieur à l'écriture de la vie sexuelle, par exemple. Oui, je pense que c'est antérieur, parce que ça peut aussi expliquer que j'ai eu cette facilité à balader ce corps et à le mettre en contact avec d'autres corps sans trop me préoccuper de quels étaient ces autres corps. Vous voyez ? Bon, voilà. Donc en fait, je prêtais mon corps, mais ma personne était là où elle avait envie d'être. Voilà. Et je pense que cette liberté sexuelle que j'ai eue tient au fait, là aussi c'est peut-être un paradoxe, je sais pas, que j'étais pas si attachée que ça à mon propre corps, si on peut dire les choses comme ça. Voilà. Donc, et moi, ça m'étonne. Alors, par exemple, je vais dériver sur un problème plus large qui dépasse ma personne. Moi, je suis toujours étonnée quand on parle des femmes violées ou que des femmes qui ont malheureusement été violées, on parle comme d'un traumatisme terrible. Qu'elles sont détruites, qu'elles sont souillées, voilà, c'est souvent le mot souillé qui est utilisé. Alors d'abord, une femme qui, ayant été violée, considère qu'elle a été souillée, à mon avis, elle intériorise le discours des autres autour d'elle. C'est les autres qui peuvent éventuellement la considérer comme souillée. Alors dans certaines civilisations, parce que voilà, une femme violée, on peut plus la marier, ou elle fait honte à sa famille, il y a des choses comme ça qui peuvent entrer en ligne de compte. Bon, dans notre société à nous, je pense que ça, c'est un résidu d'archaïsme, en fait. Moi, je pense que l'intégrité du corps, il n'a pas été... Bon, alors peut-être si la fille était vierge, d'accord, il lui manque désormais quelque chose qu'elle avait, qu'elle n'a plus. Bon, sa virginité, l'hymen a été rompu. Mais si elle n'était pas vierge, son intégrité, elle est intacte, en fait. Bon, et tout se passe dans la tête, le traumatisme. Bon, moi, j'ai toujours pensé que c'était bien plus grave, je sais pas, d'être dans un accident de voiture et d'avoir les deux jambes coupées, ou une jambe coupée même, ou un bras, ou une main, n'importe quoi, que d'avoir été violée. Pourquoi? Mais parce que votre corps, vous n'êtes pas identifié avec votre corps. Ce qui serait terrible, c'est que, en effet, peut-être qu'il y a quelque chose de la conscience d'une culpabilité, en fait, qui traumatise ces femmes. Mais si on leur dit, mais c'est seulement votre corps qui a été approprié par quelqu'un, c'est pas votre conscience, bah voilà, le corps, c'est notre manière physique d'être dans ce monde. Mais c'est pas la seule, il y a aussi notre conscience, et la conscience, elle est bien supérieure au corps. Après tout, le corps, il est ce qu'il est. C'est pas moi je voilà j'ai...
Mais vous dites elle est intacte. Non, elle n'est pas intacte, puisqu'elle a été d'abord touchée, enfin c'est le mot au sens propre. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est à la violence que ces femmes réagissent, c'est au fait qu'elles ne sont pas consentantes.
Oui, bien sûr.
Dans tous les cas que vous décrivez, toujours été consentante.
Ah oui, bien sûr. Bah, alors c'est voilà, ça c'est mon grand problème. Je regrette beaucoup de pas avoir été violée, parce que je pourrais témoigner que du viol on s'en sort. Voilà. C'est vraiment dommage.
Vous ne l'avez pas été, Catherine. Comment? Millet, vous ne l'avez pas été.
Non, je ne l'ai pas été. Mais par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des rapports sexuels avec des gens qui me plaisaient pas spécialement. Mais parce que voilà, les circonstances faisaient que c'était plus simple de céder aux avances de la personne, ou parce que j'étais c'était une partouze, comme on appelle ça, on était en groupe, et que j'aurais trouvé peut-être vexant pour ce monsieur de pas accepter d'aller avec lui, puisque j'étais déjà allée avec d'autres. Bon, voilà, il y avait ce genre de considération. Mais moi, ça, franchement, je sais pas, je pense que voilà, j'étais peut-être dans la situation de certaines prostituées qui doivent consentir des rapports sexuels avec des gens pour qui elles n'ont pas forcément une attirance formidable, évidemment. Non, alors c'est vrai, j'ai pas été violée, mais je le répète, il faut pas identifier sa personne avec son corps. Voilà, le corps est notre... Moi, j'ai presque une conception gnostique, voyez, de la personne, c'est-à-dire que notre corps nous représente dans le monde, bon... Mais notre conscience, elle est ailleurs.
Vous croyez qu'on a un corps et qu'on n'est pas un corps?
On est un corps dans la souffrance. Dans la souffrance physique, oui. On est un corps et dans... Parce que même, je me demande si on l'est dans le plaisir. Parce que le plaisir vous fait sortir souvent de votre corps. C'est pour ça que c'est tellement difficile de faire le récit, par exemple, de l'orgasme. Moi, je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Bon. Par contre, la douleur, ce qui est très curieux, c'est que la douleur vous assigne à votre corps Mais là aussi, c'est ce que j'allais dire, ce qui est curieux, c'est que on en garde très peu la mémoire. Essayez de décrire une douleur très très vive que vous avez éprouvée, c'est extrêmement extrêmement difficile à faire.
Mmh. Oui. Éventuellement, on peut se souvenir des peurs que la douleur a engendrées,
ah, bien sûr,
des
oui,
angoisses.
Mais ça, c'est les effets psychiques. Mmh. Oui.
Donc vous êtes gnostique. Est-ce que l'écriture d'un livre tel que La vie sexuelle de Catherine M, comment se passe l'après Catherine Millet, l'après écriture de ce livre-là? Qu'est-ce qui change dans la vie? Parce qu'un livre, c'est public.
Oui, à cause de son contenu, vous voulez dire?
Oui. C'était vraiment pas anodin comme livre.
Donc, non, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Parmi mon entourage, parmi mon entourage en général, le livre a été plutôt bien reçu. Les gens m'ont trouvée courageuse. D'ailleurs, ils avaient tort de penser ça. J'ai pas mis tellement de courage à l'écrire, mais on m'a trouvée courageuse ou audacieuse. On m'a félicité. Enfin bon, c'était plutôt positif. À une ou deux exceptions près. De gens qui m'étaient proches, qui ont eux pas bien réagi, mais c'était bon, et ça on regrette si quelqu'un qu'on apprécie beaucoup,
est embarrassé.
Oui, enfin, à des raisons qui sont les siennes de pas approuver votre démarche. On en souffre un petit peu, on le regrette, mais bon, c'était compensé par un succès tellement énorme que ça a pas. Que, voilà, c'était pas plus important que ça. Puis sinon, dans ma vie, j'ai pas changé grand-chose. Hein. Les traductions ont fait voyager partout dans le monde.
47 pays de traduction.
Oui. J'ai fait, une fois, je suis partie en voyage, j'ai fait au sens propre le tour du monde.
Pour suivre les traductions.
Oui, pour suivre les traductions. Je suis partie au Brésil et puis je suis rentrée par l'Australie et voilà, j'ai fait au sens propre le tour du monde avec ce livre, ce qui était quand même, il faut dire, une période très drôle.
Et ça doit être surtout très intéressant, Catherine Millet, de suivre un livre tel que celui-ci, parce qu'on doit découvrir quand même, au hasard des pays, des réactions sensiblement différentes, même si quand on tombe sur gens éduqués, on a un noyau qui le lit correctement. Et qui...
Oui, on ne tombe pas toujours sur des gens éduqués, hein, parce que, par exemple, une des rares réactions négatives à ce livre, je l'ai rencontrée en Roumanie, à un salon du livre à Bucarest. Il y avait une longue file de gens qui venaient se faire dédicacer le livre, et puis s'est mêlée à cette file une petite dame comme ça, qui était une petite dame, qui était là dans... C'est un salon assez populaire, vous voyez, il y a des gens qui viennent pour toutes sortes de livres, et la petite dame s'est plantée devant moi, et en me pointant du doigt, a commencé à me faire la leçon, comme ça, à me débiter tout un discours auquel je comprenais rien, et c'était l'interprète à côté de moi qui m'a dit, elle explique que c'est pas bien d'avoir fait un livre pareil, etc., et tout, bon, et vraiment cette petite dame... c'était pas elle sortait pas de l'université, quoi, ça se voyait. C'était même assez touchant d'ailleurs que elle prenne c'était courageux alors pour le coup de sa part de se mêler à la file des admirateurs pour venir me faire la leçon devant tout le monde. Bon, oui, bien sûr, il y a des réactions souvent assez semblables, mais certaines aussi très différentes d'un pays à l'autre. Pour dire les choses rapidement, je crois que c'est aux Pays-Bas que j'ai une fois signé toute une pile de livres pour tous les membres de la famille, parce que ça devait servir de cadeau de Noël. Et donc, la personne était venue avec, 6 ou 8 livres que j'ai signés au prénom de tous les membres de la famille. Ça, je trouvais que c'était assez typique du monde anglo-saxon. Enfin, on est vraiment dans les clichés. Et puis, pour être toujours dans les clichés... Je raconte toujours que ça, c'est peut-être, au sens propre, un de mes souvenirs les plus touchants. Au Mexique, après une intervention en public, des gens sont venus me demander s'ils pouvaient me toucher. Vous savez, il y a la Vierge de la Guadeloupe qu'on vient toucher pour exaucer un vœu à Mexico City. Et là, c'était à Mexico. Et à la fin de mon intervention, il y a 3-4 personnes qui se sont approchées, des femmes d'ailleurs, c'était des femmes. Est-ce que vous m'autorisez à vous toucher? Et elles m'ont touché gentiment le bras.
Et vous comprenez à quoi c'était relié, ce désir-là?
C'était pas sans doute pour exaucer leurs vœux. Je pouvais pas, si par exemple elles avaient du mal à tomber enceinte, pouvoir les aider de ce point de vue-là. Je pense, voilà, que c'est une société où le contact physique compte beaucoup. Ça leur suffisait pas de voir cette personne qu'elles trouvaient extraordinaire. Elles avaient besoin de vraiment ce contact de peau à peau, quoi. C'était très gentil. C'était, je sais pas. C'était un peu tendre même. Je sais pas. C'est comme. Moi, j'ai eu des fois envie de prendre des gens dans mes bras.
Des lecteurs?
Des gens qui étaient tellement émouvants dans le témoignage qu'ils apportaient. Vous savez, c'est un livre dont finalement on m'a très peu parlé, si je puis dire, mais qui, en revanche, levait beaucoup la parole des autres. Bon. Et dans toutes les circonstances, moi, j'ai vu dans le public, des fois, se lever quelqu'un et me dire, voilà moi où j'en suis, quoi, et raconter des problèmes qu'il avait rencontrés dans sa sexualité, des fois des choses difficiles, quoi, en fait, à dire comme ça. Et tout d'un coup, la personne exposait ça devant tout le monde, quoi, devant une salle qui l'écoutait. Et c'était très touchant. Et puis d'autres fois, au contraire, la personne attendait. Je me souviens d'être sortie d'une émission de l'enregistrement d'une émission de télé. Sortant du studio, là, et il y avait un jeune type qui m'attendait et qui est venu me raconter aussi ses difficultés dans sa vie sexuelle. Et ces gens-là, moi, je me sens comme une bonne sœur dans ces moments-là, et j'ai envie de les aider. Mais bon, voilà, il y a une voiture qui vous attend, un taxi qui vous emmène à l'aéroport. Vous pouvez pas rester avec cette personne. Mais au début, après, c'était plus possible. Mais au début, je me suis efforcée de répondre à toutes les lettres que je recevais. Mais après, je ne pouvais plus.
Il nous reste extrêmement peu de temps, mais quand même, il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, Catherine Millet. C'est pourquoi dites-vous que ce livre qui a fait couler tellement d'encre, sur lequel tant de choses ont été écrites, pourquoi dites-vous qu'on ne vous en a peu parlé?
Non, mais on a parlé. Non, je parlais du public. Le public, ce livre a servi à parfois débloquer des barrières comme ça en lui-même, dans sa conscience, sur sa propre sexualité. Non, il y a eu des choses qui ont été écrites, bien sûr, des choses très bien. Oui, 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 non, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien
sûr. En fait, vous avez une mission de service public.
Oui, c'est ça. Bon.
Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment.
Merci.
On se retrouve demain soir. Et bonne soirée.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Catherine Millet. À voix nue, réalisation Franck Lilin. Prise de son Clémence Bonfils, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.